Bouchi. Grand reportage.
Le Liban est agité par une contestation populaire. Depuis le 17 octobre dernier, les manifestants crient leur rejet de la classe dirigeante, jugée inefficace et corrompue. Ce mouvement a entraîné la démission du gouvernement et sur fond de blocage politique, le pays s'enfonce dans la crise économique et financière. Le Liban s'enfonce dans la crise. Un grand reportage de Nicolas Falaise.
Un groupe de jeunes manifestants bloque l'une des artères du centre de Beyrouth. Selmiyeh, pacifique, scandent les protestataires assis sur la chaussée alors que la police tente de dégager le passage. Ce soir, comme tous les jours depuis le début du mouvement, les manifestants fustigent la classe politique libanaise. Après 50 jours de contestation et la démission du gouvernement, le renouvellement espéré n'est pas au rendez-vous.
À présent, ils cherchent un nouveau moyen de se partager le gâteau pour satisfaire chaque dirigeant, en ne donnant que des miettes au peuple. Pas tout le gâteau, pas la moitié, mais un petit morceau pour le peuple. Ils n'écoutent pas, ils n'acceptent pas la révolution, ils n'acceptent pas les demandes de leur peuple.
Ces petits rassemblements sur les routes ou devant des lieux emblématiques comme la Banque du Liban et ses succursales, voilà désormais le visage d'un mouvement qui s'est installé dans la durée. Place des Martyrs, dans le centre de Beyrouth, les protestataires ont érigé un immense panneau blanc en forme de poing serré sur lequel on peut lire le mot « Thaoura », révolution en arabe. Tout autour, un village de tentes a poussé. Tous les soirs, des débats citoyens y sont organisés pour parler politique, économie ou encore environnement.
Quand les gens descendent dans la rue, il faut se poser la question « pourquoi ?»
Ancien ministre, aujourd'hui homme politique indépendant, Charbel Nahas se rend régulièrement sous la tente de son mouvement baptisé « Citoyens et citoyennes dans un État ».
Bon, ils sont descendus bien plus tard que je n'aurais espéré d'ailleurs. Ils sont réveillés en voyant s'effondrer autour d'eux tout ce qui représentait leur référentiel de confort, si vous voulez. Bon, ils n'encaissaient plus leur salaire, les banques ne leur permettaient plus de retirer leurs sous, les prix montaient, il y avait des pénuries de produits de base, d'essence, etc. Ils auraient pu survivre à chacun de ces phénomènes, mais tout ça ensemble les a mis dans un état où le niveau d'angoisse, si vous voulez, a brutalement monté. Parce qu'ils avaient le sentiment que ça foutait le camp de partout, si vous voulez. Et là, ils sont venus chacun à partir de sa propre perspective, où chacun avait ses problèmes, ses histoires, etc. Ces gens-là, ces manifestants, ne sont pas une autre catégorie sociale. Hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui ont voté pour les candidats du système un an avant. Hein. C'est pas d'autres. Le mouvement est venu, si vous voulez, sonner le glas des mécanismes traditionnels d'encadrement de la population. De là à dire que ce mouvement devrait générer sa structure politique, son programme, ses chefs, etc., je dirais que heureusement que ce n'est pas le cas, parce que sinon ça aurait été un truc monté de toutes pièces, cette manifestation. Le mouvement d'ailleurs ne va pas s'arrêter, même s'il y a des menaces, etc., bon, les gens s'essoufflent, mais l'effondrement du système est une cascade qui ne va pas s'arrêter.
Donc en fait, ce matin, comme d'autres matins avant, nous sommes devant le palais de justice. On demande de la justice pour tous et on demande d'avoir une justice non corrompue, surtout, comme tout ce gouvernement, comme toute cette classe dirigeante que nous avons. On ne reculera pas avant 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que tout ça, ça doit être très nettoyé en fait. On n'a peur de rien parce que, et surtout pas de la mort. Parce que c'est ce qu'ils utilisent contre nous, ils nous font peur, parce que nous sommes déjà morts en fait, tout simplement. Et que là maintenant, c'est pas seulement une révolution ou une intifada ou ce que vous voulez, c'est aussi un éveil, c'est un réveil des gens. C'est pour ça qu'on tape sur des casseroles, réveillez-vous. Et pour que cette révolution fonctionne vraiment, il faut que chacun mette sa main à la pâte. Et c'est ce qu'on fait.
معروفين بس ما عم بيجيبون
Le petit groupe poursuit sa manifestation devant le palais de justice. Nous entrons dans le bâtiment pour rencontrer un homme devenu l'un des symboles de ce qui se déroule actuellement au Liban. Melhem Khalaf a été élu bâtonnier du barreau de Beyrouth le 17 novembre, un mois tout juste après le début des manifestations. Cet avocat engagé s'était présenté en candidat indépendant et il est arrivé en tête devant ses concurrents qui, eux, se présentaient avec leur étiquette politico-confessionnelle. Cette victoire inédite n'est pas passée inaperçue dans un pays qui, depuis la fin de la guerre civile, est structuré par ses communautés musulmans sunnites, musulmans chiites, chrétiens ou druzes qui se partagent tous les étages du pouvoir.
Je pense que les gens avaient besoin d'exprimer un cri d'espoir. Si c'est le cri d'espoir qui est passé par mon élection, oui. Et ce cri d'espoir, il est ouvert. Ce qu'on devrait entendre par cette élection, c'est une élection qui vient au nom de tous, qui porte tout le monde. C'est la démocratie. Quand on vote et on gagne, on devient l'élu de tout le monde. Il n'y a pas ici à représenter des gens qui ont voté pour moi. Non. C'est aujourd'hui ce qui a gagné, c'est la démocratie avec un cri d'espoir pour les gens. Point.
L'élection d'un bâtonnier de l'ordre des avocats sans étiquette a été applaudie, mais il en faudrait bien plus pour remettre en cause le système confessionnel du Liban. Direction le sud du Liban. La ville de Nabatieh est l'un des fiefs du Hezbollah, puissant parti politique chiite et organisation armée. Le Hezbollah participe au gouvernement sortant. Nous poussons la porte d'une boutique où la plupart des articles sont aux couleurs jaune et verte du Hezbollah.
Je m'appelle Hassan, j'ai 22 ans.
On vend des objets décoratifs, des articles cadeaux, des CD, des cassettes.
Il y a beaucoup de choses à l'effigie de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.
Des objets de communication de la résistance, des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux de Nasrallah, on vend des choses comme ça.
Oui, il y a aussi des foulards, des uniformes, des portraits de Hassan Nasrallah. Qu'est-ce que les gens achètent le plus ?
Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter le portrait de Nasrallah sous verre, les drapeaux du Hezbollah, et on a aussi les grands posters dehors. Ce qu'on entend là, c'est l'hymne de la résistance. C'est une invocation pour que les résistants soient dans le droit chemin.
Et pour Hassan, le droit chemin, c'est une position très prudente vis-à-vis du mouvement de contestation en cours au Liban.
Nous sommes avec les gens qui manifestent. Nous sommes pour qu'ils forment un comité qui représente les gens dans la rue, car ils demandent des choses différentes. Certains veulent faire tomber le gouvernement, d'autres non. Certains parlent de choses qui n'ont rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie, comme les armes du Hezbollah. Mais les armes du Hezbollah n'ont rien à voir avec la nourriture. Si nous voulons combattre la corruption, ça n'a rien à voir avec les armes du Hezbollah.
Devant le magasin, nous rencontrons un autre habitant de Nabatieh. Le quadragénaire choisit de se faire appeler Abou Yasser. Musulman chiite, il exprime clairement son soutien au Hezbollah et ne cache pas sa méfiance vis-à-vis du mouvement qui agite le Liban depuis des semaines.
Les premiers jours, 17, 18 et même 19 octobre, c'était des demandes justes et tout le peuple manifestait. Puis les ambassades ont commencé à s'ingérer et elles ont commencé à les manipuler. C'est dirigé contre le Hezbollah. Mais tant que nous avons un leader sage, qui est Hassan Nasrallah, il n'y a pas de danger.
Voilée et vêtue de noir, l'épouse d'Abou Yasser met les points sur les i. Pas question de remettre en cause la puissance du Hezbollah auréolé de ses faits d'armes contre Israël, dont la frontière est proche.
Nous, quand quelqu'un s'ingère dans nos affaires, on s'unit, on devient une seule force, on se dresse contre le danger qui peut nous menacer. Nous faisons confiance à notre commandement. Depuis 82 et jusqu'à aujourd'hui, nous savons que parmi toutes les forces, c'est le Hezbollah qui a été sur le droit chemin au Liban. Il n'y a pas le moindre soupçon de corruption le concernant. Il est totalement propre. Il nous a libérés et nous a donné la gloire, la dignité et l'honneur. Il n'y a rien à lui reprocher. Pourquoi on le ferait? On voit la corruption depuis 30 ans. On sait qui sont les corrompus. Et on sait qu'il faut leur demander des comptes. Mais tous ceux qui veulent s'en prendre au Hezbollah, nous leur ferons barrage.
Notre présence à Nabatieh attire rapidement plusieurs membres du Hezbollah qui contrôlent nos passeports et cartes de presse, nous interrogent longuement sur les raisons de notre présence ici, avant de nous indiquer le chemin du retour. En novembre, des incidents ponctuels ont opposé des sympathisants du Hezbollah à des manifestants actifs dans le mouvement de contestation populaire. En réaction, des femmes, des mères de famille de différentes confessions ont organisé des marches communes, comme ici à Beyrouth, pour mettre en garde contre le risque de violence intercommunautaire. Et pendant ce temps, la crise économique s'aggrave, alors qu'elle est l'une des causes du mouvement de colère. Dans son magasin vide, Roder emballe des gâteaux, l'une de ses rares ventes de la journée. Comme de très nombreux salariés du secteur privé, le vendeur ne touche plus qu'un demi-salaire.
C'est moi qui travaille ici. Je sais si le commerce se porte bien ou pas. Il n'y a pas de clients. Les tables sont vides depuis ce matin. Le patron est obligé de nous donner un demi-salaire. Je le comprends. Je vois la situation. On ne peut rien faire. Il va me dire « quitte le boulot ou va travailler avec un demi-salaire ». Je préfère rester.
Du côté des employeurs, le moral est en berne aussi. Nous sommes à Ashrafieh, quartier chrétien de Beyrouth. Oumaya Behazinoun nous accueille au milieu des pâtisseries et des chocolats de son tout nouveau concept store. La jeune entrepreneuse a déjà créé 25 restaurants ou magasins au Liban et dans les pays du Golfe. Elle est aussi secrétaire générale du syndicat libanais des propriétaires de restaurants.
En fait, la révolution est le résultat de la crise. Cela mérite d'être rappelé. Nous sommes en crise depuis des années, ça n'est pas récent. Ces trois dernières années, beaucoup de restaurants ont vraiment souffert. Nous avons puisé dans notre trésorerie durant cette période et le coup de grâce est arrivé ces derniers mois. Beaucoup de restaurants ont dû fermer. Rien que pour le mois d'octobre, 265 restaurants ont mis la clé sous la porte et cela va grimper en flèche le 1er janvier. Car dans notre secteur, le mois de décembre représente autant d'activités que le reste de l'année. Donc beaucoup laissent passer le mois de décembre avant de fermer pour essayer de compenser en partie les pertes de ces derniers mois. C'est important d'avoir en tête que ce secteur emploie 150 000 Libanais et donc qu'il fait vivre 400 à 500 000 personnes.
La pénurie de dollars revient sans cesse dans les conversations. Le billet vert est utilisé au quotidien au Liban et désormais les banques limitent les retraits, 300 ou 500 dollars par semaine selon les établissements. Cette pénurie pose aussi problème à tous ceux qui commercent avec l'étranger. L'ENA travaille pour l'un des principaux importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques du pays.
On n'arrive pas à régler nos fournisseurs. Donc toutes les factures qui sont dues maintenant, on n'arrive pas à les régler. On ne peut pas transférer l'argent à l'extérieur du pays. Donc quand on va à la banque, même si on a les dollars qui sont assurés, on n'arrive pas à transférer cet argent. Et c'est la décision maintenant des banques de ne pas transférer de dollars à l'extérieur du Liban. Donc du coup, comme on ne peut pas transférer, je pense que pour les marchandises à venir, on ne pourra pas importer. Jusqu'à aujourd'hui, certains fournisseurs avec qui nous travaillons sont très flexibles, mais il y en a d'autres qui ont complètement arrêté, qui ont décidé d'arrêter. Donc on a des conteneurs qui sont bloqués dans les pays d'origine et qu'on ne va pas recevoir avant de régler les factures qui sont dues. Il y a un compteur qui tourne et si jusqu'à maintenant on arrive à tout absorber, on va arriver bientôt à dans 3-4 mois, c'est fini. Où il y aura très peu de marchandises sur le marché libanais.
On parle d'un pays qui doit importer beaucoup de sa consommation.
On importe tout. On ne produit rien au Liban.
La pénurie de dollars et la baisse de la livre libanaise touchent tous les secteurs. Fin novembre, les stations essence ont fait grève pour dénoncer le renchérissement de leurs importations et les rares pompes ouvertes ont été prises d'assaut par des clients se bousculant bidons à la main. Des signes qui inquiètent Nehemat Frem, député libanais chrétien élu en 2018, d'abord proche du parti du président Michel Aoun, le courant patriotique libre. Nehemat Frem a quitté la coalition au début du mouvement de contestation. Il reste député, mais il a retrouvé sa liberté de parole pour dénoncer le niveau d'endettement de son pays.
J'ai vu quelque chose qui m'a choqué. J'ai vu que c'était très simple que le cabinet vient au Parlement et il demande le droit d'émettre des eurobonds.
De la dette.
De la dette. C'était comme quelque chose de très simple, comme une lettre à la poste. Et tout le monde disait oui. Et j'ai essayé de dire que ce n'est pas faisable, mais ça n'a pas passé. Et j'ai compris que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on faisait ça deux fois l'an. Et c'était quelque chose de normal. Et quand ça devient quelque chose de normal de s'endetter aussi facilement, c'est là pour moi où le problème a commencé. C'est une hérésie économique. Et on va voir un changement dans les rues. On va voir une révolution de notre visage, une révolution de gens qui commencent à avoir faim, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital et ils n'arrivent plus. C'est pour ça que je crois que dans deux mois, ça va être terrible si on n'arrive pas à résoudre le problème qu'il faut pour créer un nouveau cabinet et en même temps commencer à travailler sur les évolutions nécessaires au système.
Le Liban est menacé d'effondrement économique sur fond de blocage politique. Mais dans la société libanaise, on débat. Quelles réformes pour l'avenir et quelles solutions dans l'urgence? Ancien banquier, l'économiste libanais Dan Azi estime qu'il faut d'abord admettre la gravité de la situation dans un pays où les banques offrent depuis des années des taux d'intérêt totalement déconnectés de l'économie mondiale.
À cause des taux d'intérêt factices, nous avons maintenant environ 180 milliards de dollars de dépôts dans les banques. Mais c'est de la fausse monnaie. Je veux dire que si vous mettez 100 dollars à la banque avec un taux d'intérêt de 10%, un an plus tard, vous croyez avoir 110 dollars. Mais si rien ne permet de générer cet argent, la banque ne peut pas vous les donner. Donc le premier problème, c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup d'argent de monopoly aujourd'hui dans les banques. Donc si vous êtes un millionnaire, vous avez de l'argent de monopoly à la banque. Vous voulez le retirer pour acheter cette voiture là-bas. Vous voulez acheter des cigares. En même temps, cette pharmacie-là, elle est en compétition pour les mêmes dollars. Vous avez donc une concurrence entre le monde réel et un monde imaginaire.
L'économiste préconise une solution radicale, le haircut, qu'on pourra traduire par coupe de cheveux, ou décote en termes économiques.
Donc la première étape, c'est de réduire l'écart entre l'argent de Monopoly et l'argent réel. C'est ce que j'appelle un haircut, une décote. Il en existe plusieurs sortes. L'une consiste à parler au type qui avait 10 millions de dollars il y a 10 ans et qui sont devenus 31 millions, et de lui dire « Tu n'as pas 31 millions de dollars. Maintenant, tu as 15 millions et demi. » On coupe en deux. Il ne perd pas grand-chose. Son taux d'intérêt est passé de 12% à environ 4%, ce qui correspond à un vrai taux d'intérêt.
Alors que le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri a lancé début décembre un appel à l'aide financière adressé à plusieurs pays, États-Unis, Russie, Chine, France, Arabie Saoudite ou encore Turquie, chaque jour, des Libanais font les frais de la dégringolade économique de leur pays. Certains pensent à émigrer. C'est le cas de Karen, mère de deux enfants, qui vient de perdre son emploi dans les ressources humaines.
On m'a demandé de partir immédiatement. C'était le 21 et ils m'ont payé jusqu'à la fin du mois. Donc ça correspondait à un préavis d'une semaine. J'étais un peu sous le choc. La décision a été prise trop rapidement. Je vais chercher, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir de trouver un nouvel emploi à court terme. Je pense que ça va prendre du temps. Donc dans l'immédiat, nous allons réduire un peu les dépenses. Ça n'est pas facile car c'est le mois de décembre, avec Noël, tous les achats pour les enfants.
Vous êtes d'accord avec les revendications des manifestants depuis le 17 octobre?
Ah oui, 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 c'est sûr. Je suis avec 100%.
Pourquoi?
Je pense que nous avons atteint un niveau de corruption sans précédent. On ne nous accorde aucun de nos droits fondamentaux et les gens se sont habitués. Ils ont oublié ces droits. Tous les gens devraient pouvoir aller à l'hôpital. Nous devrions avoir de l'électricité 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Nous avons un peu oublié ça, donc je soutiens le mouvement. Et je crois que les dirigeants qui sont au pouvoir depuis la guerre civile doivent partir.
Le Liban s'enfonce dans la crise, un grand reportage de Nicolas Falaise, réalisation Pierre Chaffangeon.
appelez-nous, exprimez-vous.